toutes et à tous et bienvenue dans Cop Racing. La dernière de la saison, après le dernier match de la saison, c'était pour les Bleus du côté de Lorient. Une défaite de Buzyn dans un match anecdotique en tout cas. Pour le classement, c'est surtout l'heure du bilan pour les Bleus et Blancs de faire le point sur l'été qui s'annonce chaud et agité du côté de la Méno. Pour en parler avec nous ce soir, Anthony Lebonville. Salut Anthony.
Salut Mathieu.
L'habitué de la maison et de la saison. Et en face de toi, un autre habitué, presque toujours titulaire.
Je commence à être titulaire, c'est vrai. Salut Mathieu.
Camarade de chemise rayée. En plus, le gant des chemises rayées. Au programme de cette émission, le bilan donc de cette saison si stressante pour le Racing et pour ses supporters. On évoquera aussi le dossier chaud du moment, l'arrivée possible de l'Américain Todd Boehly dans le capital du club, qui mobilise déjà une partie des supporters. Voilà pour le menu de ce lundi soir. C'est parti. Le Racing a donc terminé cette saison par une défaite anecdotique du côté de Lorient de Buzyn. Il termine donc à la 15e place. Le classement était même connu avant cette dernière journée. On ne va pas s'étendre sur ce match. On va plutôt rembobiner un petit peu, messieurs, le fil de la saison. Si je vous demande une image, un moment de cette saison qui symboliserait un petit peu, Anthony, cette saison un petit peu aux deux visages que le Racing a connu. Qu'est-ce que tu retiendrais? Quel flash te vient sur cette saison?
C'est peut-être le premier match d'Antonetti, la victoire face à Angers, où c'est la première pierre du maintien. Le bilan d'Antonetti est plutôt correct, puisqu'il a privé l'équipe à la 24e journée. Derrière, c'est 6 victoires, 4 nuls, 5 défaites, si je ne me trompe pas. Voilà, pour moi, le match à Angers est la première pierre, même si en termes de contenu, ce n'est pas un match référence, mais c'est la première pierre de ce maintien qui arrive logiquement au vu du travail effectué.
Vous dire qu'est-ce qui, dans ces 38 journées, dans ce long feuilleton qui nous a tenu en haleine toute la saison, quel souvenir te vient?
Non, mais moi, c'est plutôt un aspect symbolique. C'est le 5 février, la première victoire à la Méno contre Montpellier, avec un doublé de Diallo, je crois. C'était sous le Scornet. Voilà, c'est plutôt pour un petit clin d'œil pour le public qui a été présent toute la saison, à guichet fermé, enfin, qui a été exemplaire malgré les résultats qui n'étaient pas forcément au rendez-vous. Mais voilà, pour moi, c'est plutôt l'aspect symbolique, et c'est la victoire à la Méno, la première victoire à la Méno.
C'est vrai que pour les anciens de la Méno, entre guillemets, hein, ce soutien indéfectible tout au long de la saison, c'est véritablement une première. On va faire ensemble le bilan de cette saison. Messieurs, votre regard, allez en chiffres pour commencer, avec... Pour remettre un petit peu dans le contexte, ce chiffre 1, tout simplement, c'est la différence entre le classement du budget du Racing en Ligue 1, 14e, et son classement réel au final en championnat, 15e. Anthony, en fait, le Racing est à sa place à la fin de cette saison.
On attendait mieux quand même, on ne va pas se le cacher. Quand tu finis 6e la saison d'avant, on avait une espérance de finir entre la 8e et la 12e place. On a dû mettre nos espérances dans la poche. Au final, on est très content de finir 15e. Mais oui, si on regarde que l'aspect budgétaire, c'est ce que Marc Heller regarde, lui,
d'un point de vue... Ce qu'il a rappelé, hein, d'ailleurs, régulièrement.
Ce qu'il rappelle souvent. Effectivement, on est à notre place, mais on aurait espéré mieux. Et comme dit... Avec Dessy, on peut être champion de France, mais avec un Frédéric Antonetti en début de saison et cette hargne et cette envie qu'ils ont mis sur la fin de saison, et cette cohésion aussi, on aurait pu espérer entre la 8e et la 12e place comme espéré initialement. Ouais.
Venir, le Racing a fait avec ses moyens, en fin de compte. Ça veut dire qu'on est condamné à trembler tant qu'on a ces moyens-là.
Il y a sans doute l'aspect financier qui compte, mais il n'y a pas que, parce que je prends pour preuve la saison dernière, où on a fait une saison exceptionnelle. Donc il y a une dimension financière, mais il y a aussi une dimension sportive qu'il ne faut pas négliger. Et aujourd'hui, alors effectivement, je rejoins Anthony, on est bien content de terminer 15e, parce que la dernière fois qu'on est venu, on n'en menait pas large. On était en train de faire des calculs pour justement se dire, bon, si on a un point devant,
on n'est pas trop mal.
Donc on va dire qu'une 15e place, c'est un moindre mal par rapport à la saison précédente. On va dire qu'on est à notre place, mais en tant qu'amoureux du Racing, on espérait beaucoup mieux, effectivement. Hein.
Qu'est-ce qu'on a raté en quelques mots? C'est compliqué, Anthony, mais on a raté des choses cette saison. Évidemment, on s'est vu trop beau peut-être après la saison dernière. On a raté des choses. Le recrutement l'été dernier, oui. La prépa physique, on en a beaucoup parlé aussi.
Moi, je pense que tout le monde est responsable au sein du club, vraiment, sur cette saison-là. Marc Heller n'a pas appris de la saison, je pense, en national, où au final, il avait fait confiance à l'équipe qui était montée de CFA 2 en CFA, puis en national, et ça avait créé des distorsions au sein du vestiaire. Là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Il parlait
le Racing, pardon, pour en revenir, est fini relégable.
Et fini relégable et sauvé grâce à l'UJNAC. Là, c'est un peu la même chose. On a fait confiance à la même équipe. La priorité, c'était de renouveler tout le monde. Il n'y a pas eu de renfort extérieur. On a attendu des départs pour des arrivées. On a changé la manière de préparer physiquement les joueurs. On a fait plein de choses qui allaient à l'encontre. On l'a vu dès le début de saison que ça n'allait pas. Mais on a attendu jusqu'à au changement et Frédéric Antonetti. Et une autre méthode, on va dire ça comme ça, une méthode un peu plus rigide et militaire. Et on voit la différence. Alors, moi, j'étais pro-Stéphan, donc je peux que être le premier responsable aussi. Mais c'est vrai que là, à la place du Racing pour la saison prochaine, commencer le recrutement tout de suite et cibler les joueurs qu'on veut et les recruter rapidement pour préparer, on va dire, la saison prochaine sereinement.
C'est qu'on avait senti tout de suite les difficultés de cette équipe, les limites de ce recrutement aussi. On rappelle hein, Delaine, Dagba, Pierre Gabriel, plus les prolongations de Perrin, Daoulou, Motiba.
Ouais, mais je pense que Mathieu a bien résumé la situation. Une saison se prépare en amont. Et quand on voit de toute façon la préparation du Racing où on avait une victoire à Liverpool qui était en trompe-l'œil, hein, faut pas se le cacher. On avait des joueurs qui étaient dans le sas pour partir. On avait beaucoup d'incertitudes. On n'a pas renouvelé l'effectif parce que moi je pars du principe c'est que pour moi la concurrence amène la performance et c'est ce qu'on n'a pas su amener cette saison au Racing, il ne faut pas se le cacher. Alors je parle en ma qualité d'entraîneur parce que je l'ai vécu et je sais qu'un groupe a besoin de renouveau. Un groupe a besoin de concurrence si on veut.
Tu disais, même quand ça marche bien, je renouvelle quoi.
Même quand ça marche bien, il faut absolument ramener un peu de nouveauté au sein de l'effectif. Et c'est ce que n'a pas fait le Racing cette saison. Faut pas se le cacher. Après. Le deuxième aspect, il faut pas non plus le négliger, c'est que Marc Keller, il a d'abord géré sur un aspect collaboratif, il a laissé parce que je pense qu'il a échangé avec les joueurs pour maintenir plutôt le score nez. Et puis à un moment il a pris les rênes et puis il a décidé de mettre Antonetti à la place pour sauver le Racing parce qu'il sentait que ça prenait plus.
Ça ne passerait pas quoi. Allez, on va parler de l'avenir parce que le temps tourne. Déjà le maintien assuré, la rénovation du stade lancée, la vente ou en tout cas l'ouverture du capital souhaité par Marc Keller depuis des années pourrait s'accélérer dans les prochains jours ou les prochaines semaines avec un nom qui revient en boucle, Todd Boehly, le propriétaire américain du club de Chelsea, qui une arrivée qui inquiète déjà dans les tribunes de la Méno. Anthony, toi tu es inquiet, curieux?
Non, on peut comprendre hein, parce que l'histoire fait que ça n'a jamais été une réussite. De Daniel Echter en passant par IMG McCormack, on n'a jamais réussi et effectivement le Racing appartient aux Alsaciens, on l'a toujours dit, parce qu'auparavant, personne n'a réussi de l'extérieur. Là, en l'occurrence, il a beau s'appeler Boehly, il n'est pas Alsacien. Et ce qui fait peur aux supporters, c'est de finir peut-être comme Lyon ou comme Troyes, qui sont deux extrêmes, mais où la réussite est mitigée. Après, ce que Marc Keller a toujours dit, c'est que sa mission était de monter le club en Ligue 1 au niveau professionnel, que d'un point de vue financier, ben, le consortium d'actionnaires n'a pas des poches indéfinies et que lui voudrait garder la partie décisionnaire mais s'appuyer sur quelqu'un qui avait la partie financière et pas revivre ce qu'il avait vécu avec Philippe Ginesté où il avait fait venir Philippe Ginesté pour la partie financière et il s'était fait tout doucement mettre dehors et Philippe Ginesté avait pris la partie décisionnaire et financière. Voilà, donc c'est ce que je pense ce qu'il est en train de mettre en place, donc vous inquiétez peut-être pas trop. Enfin, moi je ferai confiance à Marc Keller puisqu'il...
En même temps, quand on prend une participation dans un club, c'est pour être le patron. Enfin, c'est ce qui s'est passé avec Jean-Michel Aulas à Lyon. Enfin, vous dire, quelle que soit la division dans laquelle on joue, celui qui met l'argent, à un moment, il décide.
Oui, l'argent, c'est le nerf de la guerre, sans doute. Mais on a des racines alsaciennes. On a des spécificités alsaciennes et je pense qu'il faut surtout pas les oublier. Je pense que Marc Keller là-dessus, j'ai vraiment pas d'inquiétude. Je pense qu'il apprend aussi du passé et il fera en sorte de pouvoir maintenir un pouvoir de décision, un pouvoir de décision alsacien. Et c'est ce qui est le plus important à mes yeux parce que un public comme ça, on n'a pas le droit de le trahir ou ne serait-ce de vendre un peu son âme au diable. C'est un peu exagéré peut-être mes propos, mais c'est peut-être aussi comme ça que le ressentent les supporters.
Ils l'ont affiché d'ailleurs hein. Ouais. On pense aux Ultra Boys 90 qui ont à plusieurs reprises déjà déployé des banderoles à la Méno contre, pas forcément contre l'arrivée d'un nouvel actionnaire, mais en tout cas contre la multipropriété. C'est ça en fait, Anthony, aussi le spectre enfin qui peut faire peur, c'est ce modèle où un club devient une espèce de filiale, de succursale d'un autre,
un club satellite où tu peux te faire prêter des joueurs qui sont en manque de temps de jeu dans le club mère. Alors ça peut être des bons joueurs, on peut avoir Aubameyang par exemple, mais ça peut être aussi le numéro 99 et 98 et d'un point de vue sportif qu'importe les résultats du Racing, ce qui importe, c'est de faire jouer ses joueurs. Et que sport. Enfin, voilà. C'est là où c'est compliqué. Et pour en venir juste sur Marc Heller, je pense qu'il en a pleinement conscience. Il a monté depuis 10 ans le club. Il a une aura avec tout le public derrière lui. Je pense que s'il se présente à la mairie, il serait maire à la place de Jeanne Barseguian. Je pense qu'en 3 semaines, 1 mois, il ne va pas détruire ce qu'il a monté en 10 ans avec tout le travail effectué par ses équipes. Donc, soyons raison gardée. Je pense qu'il est assez raison gardée aussi. On va voir ce que ça va donner, mais Marc Heller est totalement conscient.
Toi, tu dis confiance. Tu dis prudence.
Je rejoins Anthony. Moi, je dis confiance. Moi, j'ai pleinement confiance en Marc Heller. Il a su prendre les bonnes décisions au bon moment. On le voit dans la saison du Racing. Il n'y a pas eu de grosses déclarations à l'emporte-pièce. On sentait, malgré les résultats, on sentait qu'il y avait un patron. Il n'y a pas forcément besoin de faire de grosses déclarations. Moi, je pense que Marc Heller sait que le club, en tout cas le Racing Club de Strasbourg, est une famille. Et en tant que gestionnaire de famille, on fait toujours attention à ce qu'on apporte au sein de la famille. Pour moi, c'est comme ça que je pense que Marc Heller raisonne. Et il a raison de raisonner comme ça, parce que sinon, il ne retrouvera pas une âme comme
on a. La dynamique actuelle. Anthony, en 20 secondes chrono, il faut que ça aille vite, il faut quand même que ça se décante rapidement, cette histoire.
Il faut que ça se décante rapidement, puisque le mercato arrive. Il y a des joueurs en fin de contrat. Frédéric Antonetti a déclaré, je ne sais pas si je serai là la saison prochaine, ce qui est quand même compliqué. Si l'entraîneur ne sait pas, il ne peut pas choisir ses joueurs, il peut pas faire sa prépa, il peut pas renouveler les contrats ou pas. Donc il faut que ça se décide là d'ici 15 jours, 3 semaines pour avoir une saison réussie.
C'est parfait, tu m'as fait le teasing de la deuxième partie. On va parler justement des urgences qui attendent le Racing, les négociations avec les joueurs. On fera un point complet sur l'effectif et puis effectivement, on voit qui sera à la tête du Racing, même si Frédéric Antonetti est effectivement sous contrat. Voilà donc le programme de la deuxième partie. On revient dans un instant. Cop Racing de retour toujours en direct comme chaque lundi soir, mais c'est la dernière de la saison. On va se pencher sur les chantiers de l'été du côté de la Méno. Alors chantier au sens propre, il y a le stade dont les travaux ont commencé, mais le chantier en coulisses surtout. Alors petit 1, le coach Frédéric Antonetti est mécaniquement sous contraint puisque le maintien a enclenché la clause de prolongation qui était inhérente à son contrat. On n'a pas senti, Anthony, de jamais, sauf erreur de ma part, jamais Frédéric Antonetti n'a évoqué la saison prochaine, jamais il ne s'est projeté. Est-ce qu'il y a anguille sous roche?
Même lui, il a dit qu'il ne sait pas s'il sera là. Donc en fait, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il a des infos, que le club, on passe d'être vendu et que ce n'est pas sûr que ce soit lui l'entraîneur. Voilà, c'est clairement dit. La problématique derrière, ce qu'on disait, c'est que tu as des joueurs en fin de contrat. Je pense à Le Marchand. Il y en a d'autres. Bon, Liénard sera. Au vu de la cérémonie, à partir de là, quand t'as pas ton entraîneur qui est défini, même tes actionnaires, ça devient compliqué de faire un recrutement, de préparer une saison suivante. Donc c'est déjà le premier point d'interrogation. Et qui tu mets en tant que nouvel actionnaire, en tant qu'entraîneur, sachant qu'Antonetti quand même, top entraîneur, on va dire de Ligue 1, en tout cas un entraîneur d'expérience.
Ce serait curieux qu'un entraîneur qui vient de sauver le club, il faut appeler un chat, qui a 600 et quelques matchs, je crois qu'il est devenu, s'il fait la saison prochaine, il passe 3e coach français le plus capé de l'histoire. Enfin voilà, avec son vécu et ce qu'il vient de prouver, toi qui es coach, ça te paraîtrait étrange qu'il ne soit pas sur le banc la saison prochaine.
Non, mais moi ça me paraît très étrange, mais avant ça, il y a tout un contexte autour. Il y a un actionnaire qui va sans doute être nommé, qui va vouloir aussi amener aussi sa pierre à l'édifice. Antonetti aujourd'hui mériterait de continuer. Mais il faut avoir des certitudes sur l'environnement et je pense que c'est pour ça qu'il ne se prononce pas, parce qu'il ne peut pas se projeter sur la saison prochaine. Mais une chose est certaine, c'est qu'il faut se projeter, en tout cas il faut décider très vite pour pouvoir se projeter de façon sereine sur la saison prochaine.
Anthony, du coup, c'est-à-dire que Marc Heller décisionnaire, malgré tout, malgré une vente, ne prolongerait pas, ne garderait pas Antonetti? Est-ce qu'on ne tient pas là une boucle un peu curieuse?
C'est une boucle curieuse, mais souvent dans les rachats, il y a des conditions sine qua non où... Ok, je suis actionnaire minoritaire, mais je veux que le directeur sportif, ça soit lui, que l'entraîneur, ça soit lui, et je veux un droit de regard sur le recrutement, par exemple.
Voilà. Ça ressemble beaucoup à un vrai pouvoir de décision.
Ouais, mais voilà, et ça dépend où Marc Heller va mettre le curseur.
Et on discutait off avant, c'est ce qui est arrivé à Jean-Michel Aulas du côté de Lyon, en deux mots, c'est allé très vite.
Il n'était pas d'accord sur sa cellule de recrutement. Textor s'est dit, Jean-Michel Aulas, c'est plus l'homme de la situation. Il a fait un CA extraordinaire, il les a tous convoqués à 11h, mais tout le monde est venu à 10h30. Ils ont tous voté contre Jean-Michel Aulas. Il est venu à 11h, en 5 minutes, il était dehors. Voilà,
pour faire ça.
Voilà, au revoir, monsieur.
vous dire si d'aventure ce n'était pas Frédéric Antonetti, quel profil d'entraîneur tu verrais du coup du côté d'Ameno, fatalement quelqu'un d'expérience a priori quand même.
Il y a deux orientations que le Racing peut prendre, soit continuer avec un groupe comme celui-ci, avec deux ou trois changements, et garder un entraîneur d'expérience, ou alors repartir sur une autre philosophie et prendre un jeune entraîneur éventuellement. Stéphane, ça a marché sur la première saison, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Après, le constat quand même que je fais, c'est que moi j'avais bon espoir, pourtant j'étais fervent défenseur de Stéphane, hein. J'avais bon espoir qu'un entraîneur jeune lance des jeunes joueurs, et puis le constat que je fais, c'est que c'est quand même le plus ancien qui a lancé les plus jeunes joueur, hein. Mais je prends Antonetti, mais on peut prendre aussi Loré, c'était pareil aussi à l'époque. C'est en général les entraîneurs expérimentés qui amènent vers l'équipe première les jeunes joueurs, en tout cas les jeunes talents, hein. Et ça s'est confirmé
cette réussite, puisque avec le Racing donne une bonne partie de son maintien quand même à sa jeunesse plutôt. Merci. Allez, on va faire le point justement sur cet effectif du côté du Racing. C'est le dernier point de cette émission, avec pour y voir un petit peu plus clair sur le visage de la saison prochaine. Déjà, vous rappelez les joueurs qui sont libres à la fin de cette saison, au 30 juin, en tout cas au moment où terminent leur contrat. Ceux qui sont vraiment libres en fin de contrat, Kevin Gabeiro, donc Alexander Djikou, Dimitri Liénard, Maxime Lemarchand et Kawashima en fin de prêt, Sanson, Dagba, Suzuki. Et puis pour être tout à fait complet, pour vous assommer définitivement de noms, ceux qui sont sous contrat encore avec le Racing Club de Strasbourg pour la saison prochaine, voire pour les suivantes, jusqu'en 2024, donc leur dernière année pour l'instant: Bellegarde, Sissoko, Motiba, Diallo, Niamsi, Perrin, Delaine, Aoulou, Persic, Candil pour 2025, Sels, Gilbert, Doucouré, Sobol, vous le voyez, pour 2026, et Habib Diarra pour 2027. Là-dedans, il y aura fatalement... on va parler rayon départ déjà. Mounir, est-ce qu'il faut tirer un trait sur l'espoir de voir Habib Diallo encore sous le maillot du Racing la saison prochaine, le joueur le plus bankable de l'effectif avec ses 20 buts?
Alors moi, j'ai quand même bon espoir, parce que la saison dernière, on a refusé une offre venant d'Italie, et pourtant il n'avait pas fait une saison forcément aussi pleine. Là, il est à 20 buts. Effectivement, il est bankable, ça c'est sûr. Après, il faudra voir le Racing, ce qu'a besoin le Racing en termes de finances pour pouvoir construire une équipe la saison prochaine. Mais le constat qu'on fait aussi des années précédentes, c'est que les joueurs les plus prometteurs partent. On est plus sur de la formation pour pouvoir vendre, pour rentrer un peu de liquidité, pour essayer de construire une équipe compétitive, que de pouvoir garder les meilleurs joueurs au sein de notre effectif, faut pas se le cacher.
Lesquels tu sacrifies, entre guillemets, Anthony, lesquels tu es prêt à vendre pour renflouer tes finances et recruter? C'est le marqueur de ton ambition d'en décider d'en garder certains.
Ouais, mais quand on parle de vente, déjà, moi j'ai quelque chose qui me dérange avec le Racing, c'est que tu as l'impression que c'est comme à Auchan, c'est à la foire à l'euro. C'est que tous les joueurs coûtent 15 millions. Bellegarde, c'est 15 millions. Doucouré, c'est 15 millions. Je veux dire, on a vendu les joueurs pour 15 millions. Tout le temps, en fait, et je trouve qu'on manque d'ambition d'un point de vue vente. Pour moi, Diallo a 20 buts sur une saison. Déjà, la saison dernière, il était...
Ouais, il refuse à l'époque, c'était...
C'était 17, la Salernita. Mais je veux dire, c'est plus que 15 millions. Voilà, j'ai l'impression que déjà qu'on ne sait pas vendre nos joueurs. Après, celui-là que je garderai, moi plus, Diallo, j'ai fait une croix dessus. Mais peut-être Bellegarde. En tout cas, il y a
dernier
deux...
Dernier contrat, hein, Jean-Richter Bellegarde.
Il y a deux joueurs sur lesquels on est sûr qu'il faut... Enfin, pour l'avenir, c'est Doucouré, Diarra. Où c'est des joueurs, je pense que d'un point de vue mercato, de les prolonger et de sortir le carnet de chèques, entre guillemets, pour grossir leur salaire et leur année de contrat, c'est le premier point de départ du mercato. Et là, on aurait déjà réussi, on va dire, notre mercato. Ensuite, c'est essayer d'en garder un entre Bellegarde et Diallo. Mais voilà, je pense que c'est Bellegarde qui va rester et Diallo qui va partir.
Bellegarde qui sera donc libre à la fin de la saison prochaine. Il y a une problématique aussi, c'est que le Racing perd a priori Dimitri Liénard, son gardien du temple depuis 10 ans. Il perd Alexander Djikou, son leader mental, pour reprendre les termes de Frédéric Antonetti. Il va falloir recruter des joueurs, mais un ou des leaders aussi, c'est forcément un profil qu'on cible dans un recrutement.
On a besoin de ces profils-là, parce que quand le bateau tangue, il faut pouvoir compter sur des joueurs d'expérience qui ont vécu différentes situations pour pouvoir maintenir un peu le bateau à flot. Ils n'auront pas le choix que de prendre des joueurs d'expérience, mais je pense qu'ils ils le savent, hein. Après, on perd potentiellement un Djikou. Pour moi, Djikou était important au sein de la défense. On risque de perdre peut-être un gamin, je sais pas, parce que un certain âge, et puis Diallo lui a un peu barré le chemin devant, ce qui est normal. La concurrence, elle a fait son effet. Donc oui, Liénard, en fait, on peut considérer que c'est un fin de cycle et qu'il va falloir renouveler, et ils vont le faire, je pense, en bonne intelligence. Je suis pas inquiet.
de qui a genre parti l'hiver dernier, Kevin Gamero en fin de contrat, Habib Diallo, comme dit, ce qui sera certainement le plus courtisé, le Racing a, Anthony, toute son attaque à rebâtir aussi la saison prochaine.
Alors on a de la chance, on a un attaquant qui joue à Annecy qui s'appelle Saï, qui a mis 15 buts cette saison, où je pense que ça va être notre fer de lance, et on va dire la colonne vertébrale va être Cels, Doucouré, Diarra, Saï.
Toi tu construis sur un joueur qui a fait une bonne saison en Ligue 2.
Ouais, en
comme
Ludovic
Ajorc à l'époque.
Comme Ludovic Ajorc, mais en tout cas il avait déjà montré de belles choses avec le Racing avant qu'il soit prêté, il avait été blessé malheureusement, et après on a les retours aussi de Senaya et Bastian. On a deux latéraux que moi je garderai. Et après, il faut construire, comme le disait Mounir, avec des joueurs d'expérience. Moi, je suis fan du fin de contrat. Delaine Thomasson, je suis fan du fin de contrat d'expérience. C'est vraiment là-dessus qu'il faut regarder. Et on dégage la masse salariale et on va sûrement dégager des liquidités. Faire un ou deux top joueurs, quand je dis top joueurs, c'est du calibre de Sanson ou un top attaquant. En complément. On parlait avant, moi j'espérais que Nantes descende pour récupérer Marcus Coco, Mounir Adiblas, mais c'est un peu ce calibre-là de se dire, ben, je sors le carnet de chèque pour un joueur qui est capable de déstabiliser une défense, comme voulait Stéphane avant cette saison, un joueur capable de dribbler, déstabiliser une défense à la Bellegarde.
Ce qui est rare et précieux, et donc cher.
Exactement.
Dire, le Racing aussi là-dedans, alors certes aura une base défensive, hein, puisque Niamsi, Perrin, Doucouré, Gilbert, Sebal, Delaine, tout ça est sous contrat. Le profil un petit peu de cette équipe, puisque le Racing déjà est contraint d'attendre la fin du mercato comme chaque année, hein, parce que chaque année le Racing se décide dans les derniers jours du mercato et en fait démarre son championnat en septembre en fait.
Oui, c'est un peu ça, mais c'est vrai que cette année je pense qu'il faut très très vite dégainer pour pouvoir stabiliser un effectif, le laisser travailler, surtout s'il y a une nouvelle orientation avec un nouvel entraîneur, avec une nouvelle philosophie de jeu, etc. Donc il a tout intérêt en tout cas à très vite se projeter et à très vite recruter pour pouvoir bâtir dans la sérénité et pouvoir attaquer le championnat dans les meilleures conditions. Ouais.
C'est souvent un peu plus cher hein, quand on fait.
C'est un peu plus cher, mais la finalité c'est qu'on se retrouve aussi parfois le bec dans l'eau et à devoir sortir le carnet de chèque aussi pour des joueurs qui ne sont pas forcément dimensionnés pour ces prix-là.
Allez, vous le savez, dans Cop Racing, on s'est efforcé de ne pas parler que de football tout au long de cette saison. Petit coup d'œil aussi dans le rétroviseur de l'actualité du sport alsacien de ce week-end. Regardez.
Il n'y a pas eu de miracle pour Célestat. Vainqueur de Chartres la semaine dernière, le club alsacien pouvait encore croire au maintien. Mais sa défaite, vendredi à Nîmes, a mis fin à ses espoirs. Dans le Gard, il n'y a pas vraiment eu de suspense. Les Célestadiens comptaient déjà 5 buts de retard à la pause, un écart qui s'est accru en seconde période. Célestat s'incline finalement 31-23, une 22e défaite qui officialise la relégation des Violets en Pro League. La réception de Nantes demain soir pour le dernier match de la saison sera sans enjeu. Et puis en hockey sur glace, les Scorpions de Mulhouse ont été mis en liquidation judiciaire. La mauvaise nouvelle était attendue depuis plusieurs semaines, le verdict est finalement tombé mercredi dernier. En difficulté financière depuis plusieurs années, déjà placé en redressement judiciaire fin mars, le club alsacien n'aura donc pas trouvé de solution. Conséquence, les Scorpions quittent la Ligue Magnus et évolueront la saison prochaine au plus bas niveau du hockey sur glace français, la Division 3.
Voilà pour le coup d'œil et l'actu de cette semaine. Donc c'est déjà la fin de ce Cop Racing et de cette saison, de cette première saison de Cop Racing sur BFM Alsace. On reviendra à la reprise, bien sûr. Je donne les dates. Reprise de l'entraînement pour les Bleus, ça sera le 3 juillet. Reprise de la Ligue 1 le week-end du 12 et 13 août. Et ben, on sera donc fidèle au poste le 14 août. Anthony, merci beaucoup.
Merci Mathieu.
De cette saison. Tu reviendras la saison prochaine.
Bah, si tu m'invites, avec plaisir.
Je te prolonge.
Exactement.
Mounir, pareil. Tu auras un petit peu de temps en plus.
Avec plaisir, ouais, j'aurai un petit peu de temps. Je prends un petit peu une petite année sabbatique, ça va me faire du bien. Donc j'aurai un peu plus de dispo. Donc si tu m'invites, je viendrai avec plaisir.
Ta place est ouverte sur le banc. Merci à tous. En tout cas, merci à Charlotte Stevenard qui était en régie, qui nous a accompagnés, supportés toute la saison. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.